France Inter, le 7-9, Nicolas Demorand.
L'invité de France Inter jusqu'à 9h est le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du numérique, Mounir Majoubi. Bonjour.
Bonjour.
Bobard, désinformation, propagation de rumeurs ou de fausses nouvelles. Le président de la République a dit sa volonté qu'une nouvelle loi vienne régir en période électorale cette plaie qui peut abîmer, on le voit aux États-Unis, les processus démocratiques et électifs. Est-ce que, pour commencer, hein, c'est un sujet très technique, très subtil, passionnant, est-ce que les lois en vigueur ne suffisent pas ou ne suffisent donc plus aujourd'hui à faire régner l'ordre ?
Le sujet, il est grave. Vous avez bien vu ce qui s'est passé aux dernières élections françaises, aux dernières élections américaines. Je vous invite à lire le livre d'Hillary Clinton. Vous voyez qu'elle y consacre de nombreuses pages. On essaie de comprendre comment on a réussi à laisser diffuser ces nouvelles. Ce sujet, il touche à nos démocraties. Ce sujet, il touche à la France, il touche à l'Europe. Ça a été pareil aux élections qui ont suivi en Allemagne. Les gens se sont posés des questions. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment on trouve une réponse opérationnelle en temps de campagne, en temps électoral, pour être certain qu'on ne laisse pas se propager ces informations.
On n'a pas les lois nécessaires pour le faire déjà.
Et en fait, le sujet est devenu beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que ces fake news, elles ne viennent pas que de la presse. Parce que on a des lois qui aborde le sujet de la presse, du rôle du juge pendant l'élection vis-à-vis de la presse. On a aussi de l'audiovisuel. Et puis on a une nouvelle chose qui s'appelle ni presse ni audiovisuel, qui s'appelle réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on a des gens qui animent des communautés. Et puis en dehors des réseaux sociaux, on a des sites internet qui sont ni presse, ni audiovisuel et qui sont pas contrôlés. Donc la grande question, c'est la responsabilité de celui qui produit, qui raconte ses conneries, qui raconte ses bobards, celui qui le diffuse,
celui qui lui donne
un écho. Et à chaque fois, on essaye de se demander. Et c'est pour ça qu'il faut pas se précipiter parce que c'est très important. Et il ne faut pas se précipiter parce que, dans les mots que je viens de dire, il y a des mots qui sont très importants comme presse, comme audiovisuel. Et il y a des grands principes dans notre démocratie qui veulent qu'on veuille, et ça c'est essentiel, qu'on ait une liberté de la presse et une liberté d'opinion qui soit absolue. Donc il va falloir, et c'est tout l'enjeu du travail du gouvernement ces dernières semaines, c'est comment, dans cette volonté qui est la nôtre, d'empêcher d'atteindre à nos démocraties et de permettre aux journalistes, donc les vrais journalistes, la presse, d'exprimer son opinion libre sans être perturbé par les autres. Quand même, si on se raconte ce que c'est que ces fake news, c'est parfois des choses complètement délirantes. C'est cette histoire américaine de pédophilie dans le sous-sol d'une pizzeria financée par la campagne d'Hillary Clinton. Mais ça peut aussi être des choses beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire de l'argent mobilisé par des forces extérieures, parfois des pays, parfois pas des pays, qui vont acheter de la publicité sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur certains types d'articles qui donnent une perception assez biaisé de la réalité, mais pas aussi absurde que le coup de la pédophilie de la pizzeria, mais qui vont volontairement. Et donc, un des enjeux, c'est de mieux comprendre ce qui se passe dans ces plateformes d'écho. Si on a un bonhomme, une organisation, un groupuscule, pourquoi pas une secte, un pays, ou alors un groupe d'intérêt idéologique qui finance massivement plusieurs millions d'euros de publicité sur le Facebook France pour qu'il y ait toujours cette même information qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on n'a pas d'outils pour savoir. Donc, un des axes, ça va être aussi de responsabiliser les plateformes et de leur demander de la transparence. Et qu'elles nous disent, ah oui, j'ai identifié que sur ce contenu politique, il y a quand même quelques millions d'euros qui viennent de l'étranger et qu'ils sont quand même en train d'insister très fort pour qu'on diffuse tout ça sur les jeunes de 18 à 25 ans issus des quartiers populaires.
Est-ce que la réforme Mounir Majoubi, la plus fondamentale, je ne sais pas si la loi l'explorera, c'est de considérer et je vous ai déjà posé la question, je l'ai posé à Édouard Philippe à ce micro aussi, de considérer que ces plateformes sont des éditeurs au sens où les journaux sont issus de sociétés éditrices et qui sont donc responsables de ce qui est publié et des plateformes éditrices qui du coup pourraient se voir opposer le droit de la presse.
Alors justement, il va falloir qu'on soit global. C'est-à-dire qu'il y a ce sujet des fake news, mais il y a un sujet plus général qui s'appelle la responsabilité vis-à-vis des contenus mis en ligne.
Voilà.
Et notamment, un des enjeux qui est celui de son retrait. Quel retrait des contenus en ligne ? Alors, il y a les fake news, mais il y a aussi les contenus criminels, il y a les contenus terroristes, il y a les contenus pédophiles, il y a les contenus de harcèlement, il y a les contenus... Et toutes ces questions-là, il faut qu'on les traite. Les Allemands ont fait un choix. Et ont dit, on va pas trop regarder ce que c'est la nature de ces contenus. On vous demande de le retirer, vous retirez. Et si vous ne retirez pas, il y a plusieurs millions d'euros de sanctions. On a la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique française, qui date du début des années 2000, qui distingue éditeur, hébergeur. Elle dit, si vous êtes hébergeur, vous ne regardez pas ce qui se passe. Quand on vous demande d'enlever, vous enlevez s'il vous plaît et essayez d'aller vite. Et après, la jurisprudence a interprété assez différemment ce que voulait dire le « assez vite ». Et puis par contre, quand on est éditeur, là, on a une très grande responsabilité. L'éditeur a une responsabilité d'enlever avant même de publier ce type d'information. Bon, il y a un rapport de député, il y a quelques années, qui dit, Bon, ça c'est trop pour les réseaux sociaux.
Parce que
les réseaux
sociaux sont... Dès lors qu'on pose la question d'une loi, pourquoi est-ce que ce changement-là, qui semble être le point d'appui le plus efficace, dit, ah bah Facebook, publiant du contenu, ce contenu ayant des effets, est comme une forme numérique de médias. Et ces gens-là ne sont pas que des tuyaux, ce sont des éditeurs.
Comme l'a annoncé le président de la République, on va rentrer dans une discussion. Donc je prends votre proposition, j'écoute votre proposition. Il y en a d'autres qui ont été faites, celle des députés... il y a quelques années, qui ont proposé de créer un troisième statut entre l'éditeur et l'hébergeur.
Dont la vertu serait
C'est qu'il aurait plus de responsabilités que l'hébergeur, mais moins que celle de l'éditeur. Une reconnaissance du fait qu'il n'y a pas un véritable choix exhaustif permanent de la plateforme, mais un choix avec une curation semi-complète. C'est complexe comme sujet.
C'est quoi votre point de vue, vous, Mounir Majoubi ?
Moi, mon point de vue, c'est celui de la... l'efficacité.
Qu'est-ce qui est efficace ? C'est une vraie question. On peut imaginer une loi, est-ce qu'on parviendra à faire ce que vous disiez tout à l'heure ? Couvrir tel site, couvrir tel forum, couvrir telle entreprise, qui peut d'ailleurs disparaître, arrêter de financer. Qu'est-ce qui est efficace, d'après vous ?
Eh bien, il y a les finalités et les temps d'urgence. C'est-à-dire que pendant une campagne électorale, il y a une urgence absolue. Et ça se joue en heures. C'est-à-dire qu'une rumeur en période électorale, elle peut se diffuser très rapidement. D'où la responsabilité et d'où l'annonce du président de la République de dire on a un sujet fake news en campagne électorale. On va prendre le temps de travailler ce sujet parce qu'il est sensible, parce qu'il touche à la presse et qu'il touche à l'audiovisuel. Mais pas que. Il touche aussi aux plateformes. Mmh. Et par contre, il y a ce sujet plus général qu'on vient d'aborder. Celui-là, il va falloir qu'on se donne le temps, mais pas trop de temps, parce que vous avez vu ce qui s'est passé sur le harcèlement. On a reproché aux plateformes de partir les paroles d'insultes qui étaient mises en ligne. Regardez ce qui s'est passé récemment sur les insultes homophobes, sur les insultes antisémites qui restent trop longtemps sur ces plateformes parce qu'elles se sentent pas complètement responsables de devoir enlever. Ou pire, les communautés de ces plateformes leur reprochent de devenir des censeurs. Donc l'équilibre, il est très subtil, parce qu'à force de demander aux plateformes de supprimer tous ces contenus, certaines le font, et leurs communautés s'en vont en disant « moi je reste pas sur une plateforme de censeur ». Et donc il va falloir qu'on trouve des solutions qui vont se baser sur de la régulation, de l'autorégulation, de la sanction, le juge. Il va falloir différencier les contextes d'urgence, période électorale, hors période électorale, et c'est toute cette intelligence-là qu'il va falloir qu'on construise. Et l'idéal, le mieux, ce serait de le construire au niveau européen. Mais face à l'urgence, c'est ce qu'a décidé l'Allemagne. Pas de décision européenne, alors on va en prendre une. Nous, on a une loi, on est le seul pays qui a une loi comme la LCEN de 2004 qui faisait cette distinction, qui protège et qui a déjà une certaine efficacité. Mmh. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on fait l'étape d'après.
Et comment réagissez-vous ? Parce qu'après, Bernard en parlait, Bernard Guetta, après l'élection américaine, il y a eu évidemment un immense travail de réflexion sur ce qui s'était passé. Comment avez-vous réagi aux nombreux travaux qui démontrent que, de toute façon, c'est de l'ordre de la croyance. Donc, si vous croyez quelque chose, vous allez vous informer avec éventuellement donc des fake news, et que si les journaux, les médias sérieux, entre guillemets, font le travail pour démonter la rumeur, pour démonter le bobard, et ça vous renforce dans vos croyances. C'est-à-dire que c'est une histoire de fou.
C'est le sujet de la vérité et le sujet de la rumeur. La rumeur, elle ressemble très fort à la vérité. Alors, comment on fait ? Là-dessus, vous avez raison, il y a un système de croyances.
Les petits drapeaux rouges, ça marche pas. Les petits drapeaux verts, ça marche pas. Comment on fait pour briser ces croyances ?
On peut briser le début de la propagation. Parce qu'un des éléments très importants aux États-Unis, c'est que ça s'est pas fait juste avec des idéologues qui aurait poussé ces débuts de rumeurs. Ça s'est fait avec du fric. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs millions de dollars qui ont été investis pour s'assurer que ces fausses nouvelles soient bien diffusées sur les écrans des personnes. Et si vous écoutez ce qu'a annoncé Facebook a mis un peu de temps quand même après cette élection pour dire « bon, on dit pas mea culpa, mais on dit on a peut-être vu quelque chose ». Oui, peut-être, c'est vrai qu'il y a eu quelques virements internationaux et quelques investissements importants pendant cette campagne qui ont mis en avant certains de ces contenus. S'il n'y avait pas eu ces investissements publicitaires-là, s'il n'y avait pas quelqu'un derrière qui avait mobilisé des moyens humains et financiers, elle n'aurait jamais démarré, la rumeur. Mmh. Elles n'auraient jamais commencé cette diffusion. Parce que la rumeur, quand même, elle est un peu moins bien foutue que la vérité. Donc, il faut forcer très fort au début.
Il faut investir au départ.
Mais après, une fois qu'elle a commencé, vous l'avez raconté. Ça nous est arrivé dans la campagne française, c'est arrivé pendant la campagne américaine. Une fois que tout le monde est certain d'une rumeur, il faut trouver créativement, avec du courage politique, les moyens de dire, écoutez, là, c'est des conneries.
Autre sujet proprement vertigineux. Ce qu'on a appris, Dominique Seux en parlait tout à l'heure, cette affaire de faille de sécurité matérielle dans les puces Intel et un certain nombre d'autres marques. Il y a très peu de marques, c'est l'un des problèmes. L'emprise des machines est telle aujourd'hui qu'on reste intellectuellement stupide face aux conséquences possibles de machines structurellement vérolées. Comment avez-vous reçu cette information? Que peut-on faire?
Alors, sur le sujet des puces, des microprocesseurs dont les deux failles ont été évoquées ce matin. C'est un sujet très complexe techniquement, mais vous avez raison de rappeler l'espace vertigineux qu'il ouvre. Ces machines, elles sont sur notre plateau aujourd'hui.
Voilà, on en a une dizaine devant nous. Aujourd'hui. Et il y en a 20 derrière la vitre en régie.
Moi, j'ai mon téléphone à côté de moi. Tout cela sont des appareils avec des microprocesseurs dont on apprend aujourd'hui que finalement la distinction entre le hardware, donc ce qui endure, et le software, et ben en fait tout est lié, que cette faille, elle permet en fait à des logiciels qui peuvent arriver par internet d'aller utiliser une faille matérielle pour ensuite aller récupérer d'autres informations liées à du logiciel. C'est vertigineux. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut augmenter le niveau d'expertise des pays. Il faut augmenter le niveau de sécurité des entreprises, le niveau de sécurité des citoyens. C'est ce qu'on fait. C'est ce que, une des responsabilités qui est la mienne avec l'ANSSI, c'est de diffuser les meilleures pratiques de protection. Une entreprise qui mettrait à jour régulièrement son système d'exploitation, qui aurait des systèmes de sauvegarde, de firewall, de protection, elle ne sera pas atteinte par ce type d'attaque, parce que elle détecterait le fait qu'un flux anormal est en train de sortir de son ordinateur, de son réseau, etc. Aujourd'hui, on a sous-investi la sécurité numérique. Parce que c'est très pratique un téléphone, qu'un ordinateur, finalement, c'est déjà beaucoup de choses à apprendre, on ne se rend pas compte des risques potentiels. Et ben, il faut absolument continuer à courir vers cette joie de la technologie et du progrès, tout en se disant qu'il faut être responsable et qu'il faut se protéger. Il y a tout un enjeu de la sécurité numérique. C'est aussi un marché. C'est aussi un marché où la France est un des leaders mondiaux. C'est un sujet où il faut se dire que la France, elle peut gagner, elle peut apporter beaucoup à ses entreprises et elle peut apporter beaucoup
peut-être.
Dans le monde.
Intellectuellement, industriellement, point d'interrogation.
Industriellement, on a parmi...
Technologiquement, point d'interrogation.
Oui, industriellement, on a parmi les plus grands acteurs au monde sur le sujet de la cybersécurité, et ça, c'est important. Mais on est, et ça, c'est aussi une nouveauté cette année, on a aussi des petits acteurs de proximité. Et en France, aujourd'hui, c'est une vraie industrie qui doit nous protéger. Vous savez, on se protège physiquement. Aujourd'hui, ça viendrait à l'idée de personne d'avoir un bâtiment où il n'y a pas un digicode. Ça viendrait à personne l'idée d'avoir un bâtiment où il n'y a pas de gardien de sécurité, de caméra, de protéger les bâtiments physiques. Ben, il se trouve que sur les bâtiments numériques, que sur les salles numériques, ça ne se voit pas. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai défendu ma première loi au Sénat récemment, mais personne ne l'a vu, qui était sur ce sujet de la responsabilité de certains acteurs économiques à se protéger. Et donc on aura aussi des pouvoirs d'obligation pour certains acteurs, pas tous, quelques-uns, ceux qui, s'ils étaient contaminés, seraient un danger pour les Français.
Il y avait du monde au Sénat pour vous écouter?
Pas trop, et pas de journalistes, mais ce sujet passionnera les Français, j'en suis certain, dans les prochaines années.
Oui, et peut-être la baïonnette dans les reins quand on verra que les portables sont ouverts ou semi-ouverts et les ordinateurs sont très fragiles.
Mais plus on aura conscience de ça, plus on sera protégé.
Mounir Majoubi, énormément de questions encore à vous poser. On vous retrouve après la revue de presse de Claude Ascolovitch.